Bon, avec moi, il y a Pierre Lehmann, qui est ingénieur physicien, qui collabore depuis de nombreuses années à domaine public, et donc vous avez peut-être lu les articles.
C'est un antinucléaire de choc qui fait peur au lobby nucléaire.
Et à ma droite, Jacques Greenwald, qui est historien et philosophe des sciences, qui enseigne à l'université à l'Institut...
J'enseignais.
Ah oui, à l'Institut du développement, alors. Et qui est un spécialiste des questions de l'histoire, je crois, des techniques et des sciences, et notamment de leur rapport avec l'armement et la guerre. Alors, je propose que nous procédions comme suit. Ils vont vous présenter rapidement les thèses qu'ils ont contenues dans leur livre. Puis on pourra avoir un débat, on pourra leur poser des questions. Et je vous propose qu'on finisse pas trop tard, que ben 10h30, 9h15.
Tu fais un premier laïus philosophico-politique.
Non, ben, je peux dire, moi je vais bien essayer, parce que comme on a dit avec Lucie tout à l'heure, ça fait même qu'on a fait ça, et puis on était tellement sûr de se souvenir de ce qu'on a dit. Et puis surtout, depuis ce moment-là, ça ne s'est pas arrêté, c'est-à-dire que la vie a continué, puis on a probablement encore ajouté des constatations, ajouté des réflexions à ça. Enfin, disons, je crois que ce qui est peut-être utile de préciser, c'est qu'en fait, le point de départ en tout cas qui concerne était le problème du projet LEP, donc où on se proposait de construire ce tunnel. Et puis la première interaction qu'on a vraiment eue, c'était à ce sujet-là. Est-ce que ça vaut la peine de faire ça? Quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences, pas seulement en termes de travail fourni pour fabriquer cela, mais aussi les bilans à attendre de là pour accroître, entre guillemets, la connaissance humaine, d'autre part, les problèmes que sont impliqués par aussi l'aspect du travail proprement dit, les aspects oubliés, etc. Donc, l'aspect humanitaire de la maison. Et puis, progressivement, c'était surtout l'initiative de Lucie et d'André Schwenner que, finalement, on s'est dit que ça valait la peine de poser cette question une fois. Est-ce que la science, telle que pratiquée aujourd'hui, avec cette espèce de détermination très brutale de tout vouloir comprendre à partir de principes sains et de tout d'accepter n'importe quel sacrifice pour arriver à ce but, est-ce que vraiment ça tient debout? Est-ce que ça a une sens? Est-ce que ça a une logique? Est-ce que ça fait quelque chose par rapport aux problèmes de notre temps? Ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'en fait on dépense énormément d'efforts, d'argent, de connaissances, de compétences humaines à des choses qui, à première vue et pour la vie de tous les jours, sont parfaitement marginales, sinon inutiles, ou en tout cas pas constructives, alors qu'on est dans un monde qui est en train de s'effondrer pratiquement par tous les bouts. Il faut quand même voir que c'est réel que la biosphère va mal, c'est réel qu'il y a des tas de choses qui n'arrivent plus à se rattraper, qui n'arrivent plus à reprendre une certaine forme de santé. Il y a tout un tas de choses qui sont imbriquées les unes dans les autres. Ça, on le perçoit, on le sent et on le sait, et on n'a pas besoin de modèles mathématiques, on n'a pas besoin, disons, de systèmes scientifiques extrêmement compliqués pour le réaliser. Alors au fond, pour moi, la réflexion dans ce livre, c'est finalement, avec le bon sens, et disons surtout avec un retour à des perceptions de l'individu vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de ses semblables, vis-à-vis de ce qui fait la vie, est-ce qu'on n'est pas mieux armé qu'avec tout ce fatras scientifique qui est extrêmement élitaire, qui ne s'adresse qu'à un nombre extrêmement restreint de personnes, qui peuvent le comprendre, qui créent une espèce de club entre eux, il y a des clivages sociaux qui sont forcément attachés à ce genre de considération. Et est-ce qu'il ne faudrait pas dire de nouveau aux gens qu'ils sont parfaitement armés avec leur bon sens, leur expérience à eux, pour comprendre et essayer de faire marcher ce monde de manière, disons, soutenable à long terme, et de ne plus croire et de s'abstraire de cette espèce de dévotion que l'État, le pouvoir, d'une manière générale, tend à essayer de développer par rapport aux scientifiques qui le leur rendent bien d'ailleurs. Donc en fait, ça, pour moi, c'était, ça me paraissait désirable de poser cette question, de mettre ce point d'interrogation dans l'air. Et puis l'occasion s'est présentée grâce à
à cette collaboration. Et puis je crois que on y a tous appris quelque chose en faisant ça, quoi.
Il me semble qu'on peut insister sur ce point. Cet ouvrage est écrit par 4 auteurs et on n'a pas divisé le travail final, c'est-à-dire en fin de compte, ce texte est un texte unique signé par 4 auteurs. Or, nous venions chacun d'entre nous d'horizons assez différents, mais tous, d'une manière ou d'une autre, concernés par le problème de la critique de la science, et on s'est mis d'accord sur un cas concret. Finalement, au lieu de continuer à toujours faire une critique de la science très philosophique, très très générale, on a pris vraiment un cas qu'on connaissait les 4 d'une manière ou d'une autre. Finalement, tu l'as dit, c'était le projet LEF. Lucille, c'était davantage le problème des conditions de travail. André Schponer, bien entendu, il avait travaillé au CERN, il connaissait bien le fonctionnement du CERN intérieur et il sait ce que c'est la physique des particules. Il est lui-même un physicien dans ce domaine. Moi, j'avais rencontré le problème du CERN, je dirais, en tant que genevois, habitant Genève depuis de nombreuses années et concerné par les organisations internationales. Ma première approche du CERN, c'était en tant qu'organisation internationale et secondairement en tant que lieu où on fait de la physique. Mais je me rappelle très très bien du souvenir, j'étais quand même assez petit à l'époque, que j'avais eu en 1955. Peut-être certains d'entre vous se souviennent de cette grande conférence qu'il y avait eu au Palais des Nations Unies sur l'énergie atomique. Ça s'appelait, le thème, c'était « L'atome pour la paix ». Et très franchement, à l'époque, j'écoutais mon papa qui me disait « C'est très beau, tu vois, l'atome pour la paix, ça va apporter le bonheur pour tous les hommes, surtout dans le tiers-monde qui en ont bien besoin et tout ». Et pendant assez longtemps, j'ai vécu dans ce scientisme où l'atome, tout ce qui concernait l'énergie nucléaire était pour le bien de l'humanité, à une époque où pourtant la course aux armements nucléaires se faisait de plus belle, on passait de la bombe A à la bombe H, etc. Mais en fait, on masquait tout cela par des entreprises comme le CERN, qui était là, la science pure pour le bien-être de l'humanité. Et finalement, c'est assez tardivement, disons, par rapport à cette histoire du nucléaire qui commence avec la Deuxième Guerre mondiale, assez tardivement que tout d'un coup j'ai vu l'envers du décor. L'atome pour la paix, c'est une vaste mascarade, c'est du bluff. En réalité, l'atome, c'est d'abord pour la guerre. Hein, vous connaissez peut-être ce fameux bouquin du géographe Yves Lacoste, « La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre ». Je crois qu'on peut être très général et dire « La science, ça sert d'abord à faire la guerre ». Hein, autrement dit, la science pour l'État, c'est l'État qui organise le travail scientifique, la science est au service de l'État, et étant au service de l'État, elle est au service de la raison d'État, qui par définition, par excellence, par tradition, c'est la guerre. Donc, qu'elle le veuille ou non, en étant alliée à l'État, la science sert la guerre. Alors, cette vérité fondamentale nous est masquée par toute cette mythologie de la science pure, neutre et fondamentale. Hein? Et il n'y aurait que les applications qui seraient mauvaises. Alors c'est en essayant de déconstruire un petit peu tout ce mythe scientiste de la science pure, fondamentale, sur le cas précis du CERN, où il s'agit bien d'une recherche fondamentale, on ne la nie pas, mais simplement on dit, est-ce que c'est la seule science fondamentale? Est-ce que cette science fondamentale est véritablement neutre? C'est-à-dire, est-ce que poser le problème de l'application, est-ce que c'est après qu'il faut se le poser, ou est-ce que c'est pas avant? Autrement dit, est-ce qu'on fait vraiment que de la science au CERN? Or, ce qu'on dit dans le bouquin, c'est qu'on y fait beaucoup de la technique, et de la technique très sophistiquée, de l'ingénierie. Finalement, il y a beaucoup plus d'ingénieurs qui travaillent au CERN que de véritables savants. Hein, il y a très peu, des vrais savants, des physiciens théoriciens, il y en a très peu. Il y a surtout des physiciens expérimentateurs, constructeurs de machines, etc. Et nous traitons non seulement de la science, mais de la physique et de son lien avec l'ingénierie. Or, l'ingénierie, par tradition, est liée à la guerre. Hein? Le génie, on dit le génie civil et militaire, il est avant tout militaire. Le génie civil, c'est une excroissance tardive qui date de la révolution industrielle, du génie militaire. Alors, on a essayé de resituer également le CERN dans l'histoire des sciences, dans l'histoire politique et diplomatique. C'est pas un hasard si le CERN apparaît au début des années 50, c'est-à-dire en pleine guerre froide. Donc il faut situer la naissance du CERN à une époque où, d'une part, on sort de la Deuxième Guerre mondiale, où les physiciens ont démontré qu'ils étaient capables de détruire la planète, en extrapolant un petit peu à l'époque. Hein. Mais en tout cas, ils avaient une auréole de gloire, des grands Manitou, subitement, donc on ne leur refusait rien. Ils avaient envie de continuer à jouer avec la matière. Et ils demandaient des instruments qui coûtaient très cher. Aucun pays européen n'était capable de se payer ça. Donc visiblement, il fallait s'unir. En plus, on était en pleine période fédéraliste, le grand mythe de l'Europe unie. On était en train de créer la CECA, mais aussi l'OTAN, hein, c'est-à-dire l'alliance de l'Europe au service de la défense des intérêts américains, hein, au lendemain de la guerre. Alors on a essayé de rappeler tout ce contexte, parce qu'on s'est rendu compte que dans le domaine de l'origine du CERN, on vivait en pleine légende. Alors on a essayé de détruire quelques légendes. On reviendra sur certains aspects. Je laisse la parole maintenant à Lucie.
Oui, moi aussi, j'ai été frappée par le côté légendaire et mythologique de tout ce qui se disait sur le CERN. Quand on a été confronté à l'ensemble du CERN, au niveau syndical, suite à des difficultés dans les conditions de vie et de travail, de gens qui construisaient le deuxième anneau, celui qui s'appelait le 300 GeV. Et c'est comme ça que j'ai fait connaissance un peu avec le CERN. Jusque-là, j'avais aussi avalé tout ce genre de choses avec admiration. Je lisais fidèlement le scientifique américain en essayant de comprendre et puis d'apprécier, d'admirer. Et puis ça me paraissait vraiment merveilleux. Et puis tous les gens que je connaissais autour de nous, puisque j'habite dans le pays de Gex où il y a beaucoup de CERNois, nous expliquait toujours que c'était vraiment merveilleux, que c'était un lieu particulier, qu'on jouait, que c'était... leur boulot avait un sens particulier. Et puis, le choc, ça a été quand je leur ai dit, il y a un petit problème chez vous, vous n'en avez peut-être pas aperçu, mais il faudrait quand même faire quelque chose, parce que pour ceux qui sont manœuvres, c'est vraiment pas le pied. Et là, petit à petit, je me suis rendu compte que, d'abord, ils ne savaient pas quoi faire pour ça, puis ensuite, ils n'avaient pas envie d'y toucher, et puis, ils ne voulaient pas en parler. Et puis, finalement, ils s'en foutaient royalement. Alors, les instruments de recherche, c'était utile, mais la façon dont on faisait les instruments de recherche, la façon dont on les faisait fonctionner, dont on les entretenait, ils ne voulaient pas savoir. Et finalement, la recherche elle-même avait une priorité totale sur la vie d'un homme, sur la vie d'un autre homme. Et bon, ça a été ça qui, en somme, a fait que j'ai d'abord dû faire beaucoup de choses en relation avec ce qui se passait dans le CERN, parce qu'il y avait effectivement une activité syndicale assez difficile. J'ai alors justement découvert que pour ce qui concernait les fonctionnaires, il y avait des textes qui disaient que ces gens-là ne devaient pas plus ou moins être syndiqués ni avoir d'activité politique, que c'est la même chose d'ailleurs dans toutes les organisations internationales, et que ça paraît normal, parce qu'encore, c'est une mythologie, on y retrouve là des gens de diverses nationalités, pour la fraternité, pour la bonne entente, pour l'harmonie, il est bien évident qu'on ne va pas parler de choses aussi sales et dégradantes que ce qui est syndical ou politique. Alors, ça posait quand même des questions, parce que justement, il y a tout cet aspect humanitaire, de croissance de l'homme, le mythe du développement, et puis d'un autre côté, tout un rétrécissement de tout l'aspect réflexion critique, évaluation réelle de ce qu'on fait, relation avec les autres hommes, tout ça était complètement gommé et en somme créé un déséquilibre énorme. Et quand le projet LEP alors a été mis en route, en dehors du niveau syndical, tous les gens de la région ont commencé à s'interroger et là on a été l'objet d'une campagne de presse magnifique où on nous a expliqué que c'était ça allait être le pays de cocagne encore plus qu'avant, et puis que c'était vraiment fabuleux, que ça allait amener des emplois, et puis c'était la grandeur de l'Europe. Puis on a commencé à dire qu'éventuellement on voulait avoir plus de détails, et puis on n'avait pas du tout envie de nous donner des détails. Et puis finalement, on nous a dit c'est ça ou rien. Si on ne fait pas le LEP, on s'en va. Et si on s'en va, il ne restera plus rien, effectivement. sur le pays de Gex et puis aussi sur Genève, le départ du CERN, la fermeture, c'est quand même un problème. Puis là, on a vu qu'effectivement, ils pouvaient s'en aller comme ils voulaient, puis qu'on n'avait rien à dire. Et bon, c'était un peu à partir de toute cette réflexion qui suivait des actions, je dirais, concrètes qui se déroulaient, que finalement, on a été quelques-uns à se dire, maintenant, il faudrait qu'on trouve comment on va remplacer le CERN. Parce que là, ils nous ont fait un anneau de 27 km, puis ils sont déjà en train de penser à l'autre qui va aller jusqu'à Annecy, puis jusqu'à Morée. Puis nous, on n'en aura vraisemblablement pas tellement plus envie que celui-là. Alors maintenant, il faut voir, autant les laisser partir, et puis voir qu'est-ce qu'on met à la place. Et alors là-dessus, justement, on s'était tous un peu vus, puis j'en ai parlé avec André Schponer, et puis c'était pas évident du tout qu'est-ce qu'on met à la place, parce que quand on commence à remonter, c'est là, c'est la recherche fondamentale, alors quelle autre recherche fondamentale, si on veut essayer de créer une nouvelle société où les gens sont responsables les uns vis-à-vis des autres, où les gens, quand ils travaillent, réfléchissent à ce qu'ils font, on fait quoi? Puis qu'est-ce qu'on met à la place? Parce que là, il y a 7000 personnes qui travaillent, plus toutes les retombées autour. Alors ces 7000 personnes-là, on ne peut pas les mettre à faire des potagers dans le pays de Gex, s'il n'y a pas assez de terrain. Et puis c'est pas avec ça qu'ils vont vivre. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et à la fin, on a fait un petit brouillon, qui nous a valu d'ailleurs pas mal de critiques en disant, mais c'est complètement utopique votre truc, alors que le bouquin a l'air sérieux, la fin, c'est un peu drôle. Et puis c'est finalement que, c'était surtout André qui avait cette idée-là, il fallait mettre quelque chose. Parce que finalement, c'est à partir d'un brouillon qu'on fera peut-être quelque chose de plus sérieux. Et le machin, c'est plutôt une pierre dans la mare en disant, maintenant vous vous mettez d'autres pierres, et puis on fait quoi pour changer cette recherche fondamentale?
Il me semble qu'il est important aussi de parler de la préface de Robert Jung, qui a beaucoup de sens pour nous, d'une part. Je crois qu'il était très utile pour notre morale d'avoir une préface de Robert Jung, qui est un personnage. On pourrait dire même qu'il est l'un des meilleurs témoins de l'âge nucléaire. Dès les lendemains d'Hiroshima, c'est un homme qui s'est préoccupé par cet événement, qu'il ne l'a pas laissé comme ça de côté, comme s'il ne s'était rien passé, ou pire, comme si c'était fantastique, comme d'ailleurs de Chardin l'a écrit. Mais il avait écrit déjà plusieurs livres sur le destin des atomistes, dont un qui avait été très célèbre, qui s'appelait « Plus clair que mille soleils » en 1957, et qui était l'histoire de la fabrication des bombes atomiques. Et puis, à l'époque, à peu près tous les physiciens avaient répondu à ces questions, sauf un qui était gêné, qui était Victor Weisskopf, qui était à Los Alamos, et qui ensuite était directeur du CERN. Et d'ailleurs, qui est plus qu'une anecdote, un certain nombre des fondateurs du CERN sont des gens qui ont fabriqué la bombe atomique, et dont Weisskopf. Et ensuite, Weisskopf revoit Jung qui fréquentait le CERN, parce que Jung, à l'époque, croyait qu'enfin, au CERN, la physique redécouvrait sa véritable vocation au service de l'humanité, la science pure, et sans aucune application militaire. Jung y croyait fermement à l'époque. Et je pense que beaucoup de physiciens y ont cru à l'époque. Et Weisskopf a suggéré à Jung d'écrire un livre sur le CERN. Et effectivement, Jung, en 68, si je ne me trompe pas, a publié un ouvrage sur le CERN, le seul qui existait avant le nôtre, qui s'appelle « Une internationale des savants ». Vous voyez déjà la mythologie, c'est-à-dire une espèce de manifeste communiste de l'âge scientifique, dans lequel, grâce aux savants, tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, et Jung y croyait. Et dans le fond, par la suite, vous savez que Jung est devenu un très grand anti-nucléaire en Allemagne, un écologiste, il fait partie des milieux des Verts en Allemagne, et puis on le connaissait, nous, de différentes manières, et on a pris contact avec lui en lui disant « Vous êtes la personne qu'il nous faut pour faire une préface ». Parce qu'on croit savoir que vous n'avez plus tellement le même optimisme sur le genre de recherche qui se fait au CERN. Parce que c'est de la big science, de la grosse science, la grosse science n'étant pas la même chose que la grande science. Et c'était une occasion pour vous d'exprimer vos nouvelles idées, votre position sur le CERN. Et effectivement, la préface de Robert Jung, on y tient beaucoup parce que c'est une autocritique. Il dit, dans mon premier bouquin, j'étais dans le fond encore naïf. J'avais encore une vision sur ce qui se passe au CERN Et je me suis fait berner à l'époque. Et peut-être que beaucoup de physiciens qui travaillent au CERN sont tout simplement de grands naïfs. Ils ont cru qu'il y avait une rupture entre le projet Manhattan, entre la course à la bombe atomique et ce type de physique. En réalité, ce type de physique prépare les armes de demain ou d'après-demain, simplement. Et je crois que c'est la préface de Robert Young qui choque le plus les gens au CERN, parce qu'au CERN, les gens connaissent très bien Robert Young. Ils savent très bien qui c'est. Et tu te rappelles, Lucie, au colloque là avec les gens du CERN, l'intervention de Robert Young, la présence de Robert Young, mais a été ce qui scandalisait le plus ces physiciens du CERN. Parce que Young connaît beaucoup de monde dans le monde entier, des physiciens, beaucoup de savants, qui sont maintenant d'accord avec lui. Vous voyez, donc, en fait, il y a 5 auteurs, on pourrait dire, à ce livre. Hein. Je crois qu'il y a 5 auteurs, moralement, et il est très présent dans ce livre, et je crois que sa préface est un grand texte, dans le sens où c'est un homme qui a eu le courage de dire « je me suis trompé ». Et là, je crois qu'on peut même encore aller plus loin et de dire qu'on avait dans le fond un choix entre Robert Young et Denis de Rougemont. Et on a abandonné l'hypothèse de Denis de Rougemont parce que malheureusement, Denis de Rougemont n'a pas le courage de dire « je me suis trompé » à l'époque. Hein? Denis de Rougemont était aux origines du CERN, il a béni, il a baptisé le CERN, si vous voulez utiliser cette image. Il a fait partie de ces gens, les grands militants pour l'Europe, qui croyaient que l'énergie atomique était bonne pour l'humanité, que l'histoire de la guerre était un mauvais passage qu'il fallait oublier. En réalité, maintenant beaucoup d'études l'ont démontré, il n'y a pas de frontière nette, étanche, entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire. Et on fait bel et bien du nucléaire au CERN, mais le nucléaire de la Xème génération, le nucléaire de demain, et là, celui qui était le plus compétent dans ce domaine, André Schwenner, apporte un certain nombre d'arguments qui démontrent qu'effectivement, au CERN, il y a bel et bien des recherches très concrètes, très précises, qui sont liées avec certains types de recherches militaires, sans compter donc les récupérations que les militaires peuvent faire. Parce que ça, c'est une chose... On pourrait dire, les gens du CERN pourraient nous dire, mais on n'y peut rien des retombées à long terme, etc. Non seulement il y a des retombées que les militaires récupèrent, mais en plus, il y a bel et bien des liens directs du CERN avec des laboratoires militaires, à commencer par celui de Los Alamos. Mais ça, c'est un tabou. Je veux dire, c'est vraiment peut-être le plus fort tabou, parce que la plupart des physiciens du CERN disent, nous, on est les seuls physiciens au monde qui n'ayons aucun rapport avec les militaires. Mais c'est ça qui est extraordinaire. Comment se ferait-il que eux sont les seuls au monde qui n'ont pas de lien avec les militaires? Enfin, ça tient du miracle. C'est quasiment pas possible. Toute la recherche, surtout de physique, de pointe, a des liens directs et indirects avec les militaires. Hein? Il y a une énorme littérature maintenant là-dessus. Alors, c'est une mythologie et une conscience fausse, comme on dit... de la part de ces gens du CERN, de dire « Ah, nous, on est différents des autres. On est des physiciens différents des autres. » Ça ne peut pas tenir très longtemps, ça. Mais ça tient à l'intérieur du CERN, parce que c'est une espèce de religion. Hein. Et comme ils sortent peu en ville, ils vivent entre eux, allez un jour au CERN, allez-y surtout la nuit, à 4h du matin, à la bibliothèque. Il y en a plein qui travaillent. Hein. C'est la seule bibliothèque... Ou si vous avez des nuits d'insomnie, vous pouvez y aller. Hein? C'est ouvert toute la nuit. Et ça montre bien d'ailleurs à quel point c'est une secte. C'est une grande secte qui a réussi, les physiciens, la physique des particules. Ils bossent même la nuit pour leur plaisir. Moi, il me semble qu'on pourrait bientôt plutôt répondre à des questions, discuter entre nous. Je crois que ce serait mieux, hein.
Ouais.
Oui, moi, je voudrais poser une question à Pierre Lehmann. Est-ce que vous êtes toujours au CERN?
Moi, j'ai jamais été au CERN.
Non, c'est André Schwenner.
André Schwenner qui était physicien du CERN. Moi, je suis physicien aussi, mais je n'ai pas travaillé dans cette institution. Mes activités de physicien étaient dans d'autres domaines. Mais sont à l'heure actuelle dans d'autres domaines.
Ah, c'est difficile, parce que la question que je voulais poser, c'est comment est-ce qu'on se vit comme physicien avec enfin dans ce genre de travail, avec ce type d'idée qui est finalement un peu, je crois, la même chose quand on travaille dans le domaine même des sciences humaines, où on se rend très bien compte que la neutralité est en physique, c'est pire encore. Mais je ne sais pas si quelqu'un peut répondre.
Non, moi je pense qu'on peut parler de manière générale, il n'y a pas besoin forcément d'être dans une institution particulière. Moi je pense qu'il faut aborder le problème de la manière dont la science est perçue, d'une part par ceux qui la pratiquent et d'autre part par tout le monde, aussi ceux qui ne la pratiquent pas. Alors, disons, je pense qu'on passe par l'expérience, en tout cas ça a été mon cas, où quand on choisit de faire de la physique, on fait de la physique, ensuite on obtient des papiers idoines et tout, et puis on a l'impression qu'on est devant une carrière de science, enfin, on est très convaincu de, disons, d'une part qu'on a choisi un domaine important, parce que moi j'ai fait aussi de la physique nucléaire, disons fondamentalement je suis un physicien nucléaire, j'ai commencé à fabriquer, enfin à calculer des réacteurs nucléaires, parce qu'à l'époque on avait une filière suisse, on voulait donc fabriquer de toutes pièces des réacteurs nucléaires en Suisse, et puis j'ai été parmi les physiciens qui ont fait les premiers calculs concernant ce genre de choses. Et à l'époque, il faut se placer dans la peau de quelqu'un qui, on ne parle que de, disons, grand avenir, de quelque chose qu'on vient de dominer, de force absolument invraisemblable qui serait cachée dans la matière, hein, avec les équations d'Einstein qui font qu'un gramme de matière, c'est des millions et des millions de tonnes de pétrole. Enfin, vous voyez le genre de rapport. Et puis, on est en train d'essayer, comme des sorciers, de faire sortir cette énergie de cette matière qui peut être un clou, enfin, n'importe quoi. Alors, il y a quelque chose de fascinant. Et puis, au début, ben, pour montrer la démarche, on voulait construire un réacteur nucléaire de puissance sous le poly de Zurich. Alors que vous savez bien qu'aujourd'hui, à Casarde, c'est difficile. Mais à l'époque, on était parfaitement convaincus, on était fâchés par le fait que des gens critiquent ça. On disait, mais enfin, ils n'ont pas confiance en nous, mais enfin, qu'est-ce qu'il y a, quoi. Bon, donc c'est pour dire qu'il y a ce problème. Puis moi, disons, la démarche que j'ai faite, alors je m'empresse de dire que je ne cherche pas à prétendre qu'elle est valable pour tout le monde, je pense qu'on doit tous faire notre réflexion à ce sujet-là, c'est que finalement, je m'aperçois de plus en plus que ce que j'arrive à percevoir par des systèmes mathématiques compliqués ou par, disons, des expériences de physique très savantes, finalement, c'est beaucoup moins important pour moi et pour probablement les gens qui vivent avec moi que les réalisations que j'arrive à faire en appliquant simplement ce que je dirais de manière générale mon bon sens. Ou disons mes perceptions, ou disons ouais, l'envie que j'ai d'être avec des autres. Enfin, disons tout ceci qui est d'un côté parfaitement humain, ou disons des relations humaines. Alors, il me semble que ce qui s'est passé, c'est qu'on a probablement, à tort, mis une certaine prépondérance à la connaissance dite scientifique. C'est-à-dire qu'on admet que c'est, comme disait Thuillier, le savoir dominant. Alors, tout le monde doit, au fond, pouvoir prouver que ce qu'il démontre, ce qu'il veut faire, ce qu'il a comme projet, est scientifiquement justifiable. Et progressivement, j'arrive à la conclusion que c'est faux, ça. Et que, en fait, ça mène dans des impasses absolument épouvantables. Je vais m'en donner un petit exemple. Si je vous dis que cette rose a grandi parce que la nature a voulu qu'elle grandisse, si je fais cette affirmation, le cortège des scientifiques va se moquer de moi. Ils vont dire, mais enfin, il n'a rien dit, c'est ridicule. Enfin, c'est pas perçu comme une explication. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut substituer à cette explication si on est scientifique? Si on veut vraiment être complet, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut commencer avec les quarks, il faut commencer avec les quantas d'énergie, il faut passer par les listes du DNA, il faut passer par l'évolution. Vous allez écrire un livre comme ça, très grand et très compliqué, puis à la fin, vous saurez peut-être un petit peu mieux en quoi consistent ces feuilles et ces fleurs, mais est-ce que vous aurez compris quelque chose en plus avec lequel vous puissiez faire quelque chose dans votre vie de tous les jours? Rien. Alors donc on voit qu'en fait, on substitue une démarche horriblement compliquée à une explication qui n'en est peut-être pas une, mais qui a au moins le mérite de la simplicité, et qui finalement, au pied du mur, vous apporte tout autant. Parce que quand je vous dis que c'est la nature qui a voulu faire ça, je vous laisse entièrement libre de faire votre interprétation personnelle sur ce qu'est la nature et comment elle fonctionne. Donc je crois qu'en fait, le grand problème, c'est que la science est arrivée dans un état qui est... Ouais, c'est
absolument je ne suis pas ça. D'accord.
Ok, pardon.
Parce que si je veux sentir la rose, on repense à l'exemple, je crois que c'est un problème. épistémologique important, ce mouvement de la connaissance et des âges conférentaires. Si on prend l'histoire de la pensée, si je veux la sentir ou la regarder, je n'ai besoin de passer par aucun médiage. Mais si je veux changer, par exemple, si je veux avoir une rose bleue, si je veux changer, si je veux faire quelque chose, c'est ça le problème de la connaissance. C'est-à-dire, je n'ai pas envie ni d'être simple, ni d'être utile, j'ai envie pour moi de changer la couleur. Inévitablement, je dois passer par le média des connaissances dont l'utilité sociale et l'usage ou la simplicité ne me servent à rien. Enfin, je veux parler du CERN, hein. Je parle simplement au niveau de la thèse qui dépend, au niveau de l'usage, le mauvais usage des scientifiques. Hein. Je veux dire, simplement, ça dépend de l'objectif. Ça dépend de l'objectif qu'on se fixe.
Oui, mais est-ce que tu vois que d'emblée, tu donnes à la connaissance scientifique une connotation technocratique, à savoir que la connaissance scientifique sert à transformer la nature, à la dominer.
J'ai dit simplement, je veux changer la couleur de cette rose. Pour le moment, je ne veux dominer personne, c'est mon
entretien
avec la connaissance.
C'est transformer la nature. C'est pas une question de connaître la nature, c'est la question de vouloir la transformer. C'est un problème d'ingénierie et pas de science.
Oui,
d'ingénierie.
Mais alors, c'est pour ça que
c'est du génie génétique, ça.
Il ne faut pas confondre, pour ça que, alors je veux d'accord, il ne faut pas confondre la technique et la science. Je crois que là, on a vu. Et là, je crois qu'il y avait une confusion. Et l'usage.
C'est-à-dire qu'au CERN, on fait la confusion. À savoir que la connaissance. Oui.
Mais en fait, nous, j'aimerais pas qu'on l'entretienne.
Non, mais pas.
Au niveau du fond comme ça. Mais la question que j'essaie de...
que je dis pas mais maladroitement, c'est, je trouve que l'attitude qui consiste à dire, mais mon Dieu, cette rose, elle est comme elle est, et puis au fond, je peux aller en regarder des autres ailleurs, et puis je peux progressivement me rendre mieux compte de tout ce qu'il y a comme rose un peu partout, cette attitude-là n'est pas, a priori, une attitude de moindre importance, que l'attitude qui consiste à dire, ben, cette rose, mon Dieu, je vais m'arranger pour qu'elle ait la gueule que je veux. Ouais. C'est un peu ça qui me paraît très important. Parce que la science a trop cette tendance, actuellement, malgré tout, c'est quand même réel, d'être un moyen pour, au fond, forcer notre conception de certaines choses sur un ensemble que nous ne dominons pas. Parce qu'il faut quand même être un petit peu honnête là-dedans. Nous ne dominons pas ce problème. Par rapport à la science, la vie est un infiniment complexe et la science ne comprend pas la vie. Il n'y a pas de compréhension au sens scientifique du terme.
Je suis d'accord, mais ce que je voulais simplement dire, c'est que, pour moi, et en plus dans l'association où on est, il y a la science, puis il y a la militance. Hein, il y a l'ensemble de croyances, de valeurs dans lesquelles on insère cette idée de la science. Et je crois que ce n'est pas la même chose. Et là, c'est pour ça que j'ai insisté lourdement, on ne peut pas confondre la science et la technique, et c'est vrai que quand on a une pratique scientifique, et c'est l'association, beaucoup d'entre nous sont participantes, quand on a une pratique scientifique, c'est vrai qu'on ne peut pas la croire désincarnée, on ne peut pas penser qu'elle est ahistorique, atemporelle, et c'est pour ça que tu parlais d'une religion ou d'une mystique.
C'est bien pour ça qu'il faut faire très attention quand on dit... Quand on dit la science, parce que c'est toujours un idéal de science auquel, dans la réalité, on n'accède pas, parce que notre pratique scientifique est liée à des techniques, et surtout dans le cas du CERN, à des techniques lourdes et où les aspects ingénierie prédominent finalement sur les aspects théoriques. Alors il faut faire très attention quand on dit, attention, séparons bien ce qui est scientifique, ce qui est de la science, c'est une opération quasiment impossible. Nous parlons toujours de la science avec un certain idéal de science. Et peut-être bien que cet idéal a appartenu à un passé qui est définitivement révolu, qui n'existe plus dans la société dans laquelle on est.
J'aimerais poser une question, moi.
C'est un problème.
Est-ce que quelqu'un ici pense qu'avec la science, on peut tout comprendre?
On est dans un groupe
qui s'appelle Femmes, Féminisme et Recherche. On pense, on pense que dans le cas d'une pratique scientifique, on s'interroge même nous si on est des scientifiques, hein, je crois que c'est un autre problème. Dans le cas quand on a une pratique scientifique, quand on l'utilise, on ne peut pas faire l'impasse d'une réflexion dans laquelle s'insère cette pratique. Nous, on en a fait dans des convictions militantes, féministes.
pourrait en faire d'autres.
Alors que c'est le propre, justement, d'une pratique scientifique de faire l'impasse sur la réflexion des conditions.
Oui, absolument.
Absolument. Ça, le travailleur scientifique moyen se définit par l'exclusion de tout ce qui est réflexion sur cette pratique.
On dit le travailleur scientifique moyen masculin, parce que c'est vrai qu'il
est un héritage. Non, mais même les femmes qui ont essayé de faire ça ont dû finalement accepter les codes.
Ah, bah c'est sûr, mais il faut bien connaître nous-mêmes.
Mais voilà, je crois que là, on tombe sur quelque chose qui est très important. Quelque chose qui est très important. Ce qu'on appelle une pratique scientifique dans notre société, maintenant, c'est justement d'éliminer la réflexion sur cette pratique et sur les conditions sociales dans lesquelles elle se développe. Les rapports de pouvoir à l'intérieur même de la communauté scientifique. Ce qu'on appelle une pratique scientifique est forcément sanctionné par toute une hiérarchie scientifique. Il y a des académies des sciences, il y a des referees dans les revues scientifiques. Je veux dire, il y a des relations de pouvoir à l'intérieur de la science, plus des relations de pouvoir entre la communauté scientifique et la société. Je veux dire, la science n'est plus exclusive du politique, elle est traversée par la politique, et elle est elle-même politique dans la mesure où, en tant que société, dans la société, elle a des structures de pouvoir.
Mais c'est un problème, disons, historiquement, assez nouveau, l'avènement de la technique et les utilisations de la technique...
Non, mais la réflexion sur le problème de la sociologie politique de la science, c'est quand même très nouveau, très nouveau. Il est apparu dans les années 60. Si vous voulez, on peut dire grosso modo, le problème des rapports entre science-société, il a commencé à naître au lendemain de la crise de 1929, dans les années 30. Il y a des dates assez précises. Il y a eu un célèbre colloque à Londres en 1931 où la délégation soviétique, qui était des anti-staliniens, mais une délégation soviétique a dit aux fiefés idéalistes occidentaux: vous êtes complètement hors de la question, la science, ça fait partie de la société, Galilée, il était lié avec l'arsenal de Venise et tout, et vous avez une manière de traiter de Galilée ou de Newton qui est complètement idéaliste. Et cette délégation soviétique a commencé à apprendre aux occidentaux comment une science advenait dans une société, intervenait sur cette société, etc. Mais bon, le problème a été étouffé, et c'est seulement ensuite, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, où le problème est redevenu à la gueule des physiciens avec Hiroshima et Nagasaki, qu'on s'est reposé le problème science et politique, science et pouvoir, mais finalement dans les universités, c'est que dans les années 60 qu'on a commencé à élaborer une réflexion sociologique et politique sur la science. Et aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, c'est assez développé. Malheureusement, il faut le dire, ici, c'est encore très très peu développé.
Pour en revenir à la question que tu avais posée au début, c'est dommage qu'André ne soit pas là, mais disons, moi qui les ai vus autour, la constatation, c'est que c'est très difficile de faire une analyse critique. André, quand il s'est rendu compte des choses qui lui posaient, enfin qui le dérangeaient, a très rapidement donné sa démission. Tous ceux qui ont eu une attitude critique sont partis, ils ne restent pas. Et il y en a quelques-uns qui ont un début d'analyse critique malgré eux, qui se cramponnent aux branches pour surtout pas avancer davantage, et je vois d'année en année se fragiliser parce que la contradiction devient de plus en plus compliquée et que cette critique, il faut vraiment qu'ils se la rentrent, parce que à partir du moment où il y a un début de critique, on ne peut plus tenir dans l'institution et on ne peut plus tenir dans la mécanique qui enchaîne.
Disons surtout dans une institution aussi forte que celle-là. C'est-à-dire dans les sciences humaines, il y a une souplesse qu'on ne retrouve absolument pas au CERN.
Ah oui, là c'est... Ouais. Quand quelqu'un dans sa tête commence à avoir vraiment une vue critique, il peut plus tourner. C'est pas possible.
Quelque chose qui m'a pris pour que votre bouquin, je ne l'ai pas vu, mais après les éléments que vous avez amenés, ça met en discussion vraiment des points clés aussi que à partir des interrogations que les sciences en posent, c'est l'éthique. La physiologie face à la science, la domination de la nature, tout particulièrement. L'histoire de la légende de grandes institutions, qui vous évoquez, la tâche de l'économie, et puis là où je aller un peu plus loin, c'est votre postulat du bon sens des gens. Mm-hmm. Et puis de l'autre côté, la thèse que Jacques amène, elle montre bien par rapport à l'histoire des sciences, que la science, c'est un instrument de l'État, une croyance à l'État qui est vraiment imbriquée dans toute cette entreprise gigantesque. Et si, en tant que cliniste aussi, nous réclamons une autre recherche fondamentale de la science sociale, ça traverse les deux champs, qu'est-ce que c'est donc votre reste à la fin et votre utopie, ça m'intéresse beaucoup. Parce que quel est notre rôle alors, si on voit quand même que le bon sens des gens est vraiment là, elle est là comme une force politique en Europe, à travers les mouvements de paix, et les mouvements écologistes, les mouvements féministes, bon, c'est moins exemplé, mais malgré tout, il y a des alliances qui sont faites. Et puis, malgré tout ça, ah ben, c'est pas pris au sérieux, je veux dire. Hein? L'autre, cette religion-là, elle est tellement forte, et quel est notre rôle de notre part qui ayons vu les coulisses de cette religion-là pour désamorcer quelque chose aussi de l'intérieur. Moi, je veux bien qu'on s'allie au bon sens des gens, hein, et c'est absolument nécessaire, mais il y a aussi l'autre côté. Hein, et là-dessus, je suis moins claire. Je m'interroge aussi tous les jours sur est-ce que je suis dans l'institution ou pas. Dans notre congrès qu'on avait à Genève, c'était le grand débat très violent entre nous-mêmes autour de cette question-là. Et j'aimerais aussi savoir encore un peu plus quoi, où vous pouvez gagner votre prix pour faire une telle recherche. Je veux dire, la même chose pour vous, on sait très bien où passe le prix, encore si vous êtes en sciences naturelles. On a peut-être la chance un jour d'avoir quelque chose au Front National, mais pour l'histoire, pour tous les trucs autres, il n'y a pas de prix quand même. Il y en a toutes ces analyses-là, et tout nous tirons notre pain pour en faire autre chose. C'est comme je pense, il a dû sortir, quoi. Et puis nous, avec nos attaches institutionnelles, qu'est-ce qu'on fait? Pour moi, ça reste. Là, le projet dystopique est vital à plusieurs niveaux, quoi. Ça m'intéresse beaucoup. La fois qu'on touche beaucoup dans les interrogations qu'on fait aussi nous dans nos participations.
Mais je crois qu'on ne peut pas donner une réponse autre que personnelle à ces questions, en tout cas pour moi. Disons, effectivement, je vis dans une contradiction tout comme vous. Donc, en d'autres termes, vous avez posé la question très pertinente et juste, d'où c'est que vous sortez votre fric pour pouvoir, au fond, asseoir votre derrière sur une chaise et vous mettre à écrire et puis quand même continuer à vivre. C'est une question extrêmement juste et fondamentale. Bon, alors, je pense qu'effectivement, enfin, en ce qui me concerne, j'ai une représentation ou une perception, disons, des défauts de ce qui est en train de se produire en tant que moyen, disons, le système actuellement en place comme moyen d'interaction humaine avec les États et tout, que c'est en train de mener à une vitesse extrêmement rapide, à mon avis, pour autant que je puisse le percevoir, à une catastrophe dont on n'a aucune idée. Il y a ce que j'appelle l'effet Titanic, d'après le livre de Kenneth Watt, qui consiste à dire le bateau n'est pas coulable. Les gens dans le Titanic étaient tellement convaincus que le bateau était bien foutu que ils étaient parfaitement convaincus qu'il ne pouvait rien lui arriver. Et nous, on a exactement ce genre de réflexe. C'est-à-dire qu'on a mis en place un système, à mon avis, parfaitement malencontreux, que j'appelle le système économique en abrégé. Et ce système n'est pas viable. Et nous avons l'effet Titanic qui nous fait croire qu'on ne peut pas le faire sombrer, qu'il ne sombrera jamais. La même chose est vraie d'autres contingences. Par exemple, j'ai eu l'occasion de, disons, ces temps, je m'occupe de physique de l'atmosphère essentiellement, mais enfin, disons, on voit qu'il y a une liaison extrêmement directe entre la biosphère et l'atmosphère, et que la biosphère est en train de foutre le camp, là, le climat va suivre. Ce que ça veut dire en termes exacts, on ne peut pas vous le prédire, mais ça pourrait être extrêmement rapide. Alors, bon, ça, c'est, disons, des conditions, en allemand, les Randbedingungen, donc les conditions aux limites qui sont au fond données. Et puis on voit qu'il y a l'effet Titanic, puis que tout le monde s'en fout. Parce qu'en fait, c'est ça, le pouvoir s'en fout complètement. Il n'en a strictement rien à faire que l'humanité s'en aille, pourvu qu'il s'en aille en bon ordre. pourvu que le pouvoir soit respecté, que la hiérarchie ne soit pas mise en cause, eh bien, c'est égal à la limite. Non, mais c'est effectivement comme ça qu'il réagit. Moi, j'ai cette façon. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, alors, dans l'immédiat, bon, il y a une, disons, ce qui me concerne, ben, de faire des trucs comme ça, ou bien de faire des choses, disons, que j'estime écologiquement justes. Je l'ai fait de la main gauche en travaillant pour faire ça. Mais alors, je ne fais peut-être pas, je ne veux pas dire erreur, mais disons, je ne fais pas en compensation plus de boulot par ailleurs. C'est-à-dire que je divise mon temps et je gagne moins. En d'autres termes, si vous voulez, par rapport aux gens de mon âge, avec les qualifications de guillemets que je peux avoir, normalement, je gagne beaucoup moins. Mais ça n'a aucune espèce d'importance. C'est une première façon de faire son compromis. Et ensuite, bon, on essaie de faire ses compromis petit à petit. Mais on est toujours dans son compromis, étant donné que si je voulais aller au bout de ma pensée, je serais obligé de vivre dans un tonneau de Diogène, à la limite. Et puis dire que je ne veux pas participer à toutes ces bêtises. Un autre compromis que je ne fais pas, moi je refuse de m'assurer, par exemple. Je ne veux pas participer à l'aberration de la spirale des prix médicaux et surtout de la réflexion stupide qui se fait aujourd'hui sur la santé, où on fait croire aux gens qu'à plus de, à grand renfort de mécanique, de je ne sais quelle combine extraordinairement savante et scientifique, entre guillemets, on va réussir à faire que la santé des gens se maintienne. Alors bon, ça c'est des options qu'on peut prendre. Alors le seul espoir que j'ai, est peut-être l'illusion, alors bon, il faut vivre d'illusion, c'est que finalement il y a des seuils, et qu'il se pourrait, en temps utile ou pas, l'histoire le dira, qu'il y ait des réflexions comme ça et des gens qui se mettent en cause de plus en plus et qui prennent certaines étapes. Supposez par exemple que tout le monde décide de ne plus s'assurer. Ça fait un sacré pataquès. C'est quelque chose d'extrêmement puissant, ça. Un autre truc qui serait évidemment extrêmement puissant, c'est des actions de type désobéissance civile, du genre de ne pas payer d'impôts, en tout cas d'y mettre un petit peu des conditions. Bon, il y a tout un tas d'actions qu'on pourrait imaginer. Moi, je suis heureux qu'il y ait des gens qui réfléchissent à ce genre de questions parce que je me pose cette question. Bon, ceci étant dit, je crois que il faut. Enfin, moi, je n'ai pas de méthode ni de recette à vous proposer actuellement, je ne sais pas si d'autres en ont, pour dire ben, on va faire ça. Moi, je peux dire, je peux dans ma vie de tous les jours essayer d'aller progressivement dans un sens que je crois pas trop bête, mais c'est peut-être pas un message bien réconfortant, mais je ne peux pas vous en donner d'autres.
Moi, je crois qu'il y a aussi un autre élément de réponse. C'est que ce livre-là ne pouvait pas se faire dans le cadre universitaire. C'est-à-dire que si on avait mis, même avec la bonne intention, les meilleures intentions du monde, quatre chercheurs de l'UNI, ausculter le CERN de manière critique, on n'obtenait pas ça. Certainement pas. Donc, il y a déjà une chose qui est assez claire. Ce genre de critique radicale du CERN ne peut pas se faire à l'université. Ça, c'est, je crois que c'est très important. En plus, ne peut pas avoir de subvention du Fonds National. Hein. Après ce bouquin, moi, j'ai demandé de l'argent au Fonds National, sans espoir, mais juste comme ça, pour voir, comme je venais de me faire mettre à la porte de l'UNI, enfin, bien que je tape à la porte d'ailleurs. Et ils ont refusé, avec des arguments farfelus, mais complètement farfelus. On voyait bien que c'était un nom purement idéologique, on avait demandé à un sous-titre, bah, trouver des arguments, et puis il a dit n'importe quoi, le type. Notamment, c'est pas scientifique. Bon, donc on voit très bien, scientisme. Autrement dit, le Fonds National, c'est la science, c'est l'institution scientifique. Donc, c'est évident que c'est pas elle qui va nourrir les gens qui veulent saper cette institution. Alors, on est toujours un peu à la limite. Autrement dit, on va essayer d'obtenir un peu d'argent du Fonds National sur des trucs complètement anodins sur lesquels on passera 3 heures par mois, pour en réalité pouvoir vivre et faire ce dont on a envie et qui n'est subventionné par personne. Je veux dire, on a fait ça sur nos heures de loisirs, si on peut employer cette expression. Hein. Mais c'est évident aussi qu'il fallait être des universitaires pour faire ce bouquin. C'est-à-dire qu'il fallait au moins qu'il y ait un physicien, il fallait au niveau historique avoir des sources, être en contact avec des gens. On a été parmi les premiers à pouvoir utiliser l'histoire qui est en train d'être écrite au CERN. Ça, c'est une chose assez intéressante. Le CERN, pour son 30e anniversaire, a financé toute une équipe de recherche d'histoire des sciences qui fonctionne soi-disant librement. Bon, par des hasards, fait, c'était pas tellement le hasard. On nous connaissait, on a pris contact avec nous, et on nous a filé quasiment sous la table les premiers documents que cette équipe faisait, tout en nous disant bien, faites-en quelque chose, parce que nous, on n'est pas sûr que ça va donner quelque chose, on est déjà trop critique, on est déjà mal vu au CERN et tout, on veut nous forcer la vérité. Les physiciens nous disent, mais j'y étais, moi, l'histoire, c'est moi qui l'ai faite. L'historien, évidemment, il dit, mais il n'y a pas que les témoins oculaires qui disent la vérité historique, il y a des autres documents et tout, il faut confronter les documents. C'est pas aussi simple, l'histoire. Et en fait, on contredit même celui qui raconte l'histoire, en réalité. On a eu un très bon contact avec un des principaux historiens du CERN, dont, par ailleurs, les Genevois n'avaient jamais entendu parler. Les Genevois ignoraient qu'au CERN, il y a de grands historiens des sciences qui sont en train de faire l'histoire du CERN. Bon. Mais à mon avis, moi je suis à peu près convaincu de ça, le CERN qui devait, en principe, publier leurs recherches, ne le fera pas. Il publie des préprints très confidentiels qui ne touchent que des spécialistes, mais ils ne publieront jamais la totalité de ça, c'est beaucoup trop critique. Ils démolissent la mythologie de l'origine du CERN, ils montrent les liens, et encore ils montrent relativement peu les liens avec les militaires. Relativement peu. Nous, on va plus loin que les historiens. Mais hein, on voit qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible dans l'institution. Et puis il y a le fait que des chercheurs, bon, forcément, ont plus ou moins un rapport avec l'université. Moi je crois que le problème de l'université, c'est qu'il faut l'ouvrir. Il faut dire aux gens, mais allez à l'université, mais allez dans les cours, allez dans les bibliothèques, mais ne payez pas vos taxes, mais rien, ça ne sert à rien, j'ai jamais eu aucun contrôle. Moi, il y a des gens qui peuvent venir dans mon séminaire, je ne peux pas leur demander est-ce que tu as payé tes taxes. Aucune espèce d'importance. N'importe qui peut aller à la BPU, peut aller dans une bibliothèque d'un département. Il y a au moins une cinquantaine de bibliothèques de département. Vous serez toujours relativement bien servi si vous vous débrouillez. Et on ne vous demandera pas d'où vous venez, ni rien. Donc l'université devrait être davantage utilisée par les gens. Il faut l'ouvrir, il faut qu'elle serve.
Non, mais il ne faut pas faire que ça.
Mais non, je ne dis pas qu'il faut faire que ça, mais je pense que c'est un des moyens, peut-être, de lutter contre ce sens.
Parce que moi j'ai qu'un... Oh, excuse.
Bon, moi j'ai effectivement la même question. Je l'ai résolue un peu différemment aussi. C'est que bon, je fais un peu n'importe quoi. Et puis, je fais ça en plus. Et effectivement, quand j'ai commencé le bouquin, c'est vrai, on s'était dit, on va se donner un petit niveau pour avoir l'air sérieux. Et puis bon, je suis économiste, enfin j'essaye de l'être. Mais bon, là c'est pareil. J'ai malheureusement un esprit critique... systématique, c'est pas de ma faute, mais il faut toujours que je réfléchisse à ce que je fais. Et j'ai travaillé pas mal d'années, je fais des choses, mais j'ai jamais pu m'intégrer avec le système des patrons, etc. Et je travaille avec des gens qui sont des patrons, mais comme je garde mon indépendance, finalement, il n'était pas question que j'aie jamais un poste nulle part. Alors finalement, j'arrive à faire du travail intéressant parce que je peux faire ce que je veux, mais je le fais... samedi, le dimanche, ou en dehors des heures de bureau. Alors, effectivement, je fais une thèse, et puis je l'ai commencé en 73. Bon, alors, ce coup-là, j'arrive au bout, mais ça prend du temps. Bon, ce qui m'a consolé, c'est qu'il y a finalement des assistants, j'ai vu à Paris, là, quand ils ont fait la critique sur l'université, qui arrivent à mettre largement autant de temps que moi, tout en faisant spécialement ça, ou un peu d'enseignement. Donc, finalement, le moral se regonfle, tu te dis, bon, ça va. Mais ce qu'il y a, c'est que ce qui est frappant, justement, qu'est-ce qu'on va faire à l'avenir? Moi, en ce moment, bon, je fais de l'économie comme ça, puis je fais aussi du droit pour des raisons professionnelles. Et puis je m'aperçois que même ceux qui sont dans le même système, sans parler des gens qui sont critiques, un économiste et un juriste ont énormément de mal à avoir une discussion sérieuse. Ils discutent jamais entre eux sur le fond, c'est pas possible. Ils parlent pas de la même chose. Ils emploient pas les mêmes mots. Et moi, qui ai un langage, je dirais... mi-chèvre, mi-poisson, parce que je fais un peu de tout, puis que j'ai du mal à rester dans un certain type de langage, ben les gens ont beaucoup de mal à comprendre ce que je dis, parce que je n'utilise pas le vocabulaire. Et même en économie, c'est très marrant, parce que quand j'essaye de parler avec des gens qui sont dans le domaine de l'économie libérale, ils font un certain type de langage. Quand on passe avec les équipes marxistes, ils font un autre type de langage. Et puis, quand on travaille économie au syndicat, c'est tout à fait différent. Et finalement, bon, où est-ce qu'on va avec ce genre de truc, quoi? C'est délirant. Et dans le bouquin, on disait qu'on aimerait bien disons, parler d'une épistémologie de la complexité, c'est un terme qui est beaucoup plus certain.
Il y a peut-être juste un petit détail dans le
futur. Il me semble que dans le futur, il y a quelque chose à faire dans ce sens-là.
Hein, le sous-titre de bouquin, pour ceux qui connaissent le livre, c'est un effet indisciplinaire. Donc, c'est pas. Au début, on était une équipe interdisciplinaire, mais le mot interdisciplinarité ne nous convenait pas, parce qu'on ne respectait pas nos disciplines. Hein. On cassait les frontières. Donc, c'était indisciplinaire, parce que l'indiscipline était notoire. On n'a pas le droit de ne pas reconnaître les frontières. On veut bien mettre encore le travail pluridisciplinaire. Mais en réalité, il faut respecter, au contraire, une certaine interdisciplinarité à renforcer les disciplines. Parce que chacun parlant de son point de vue, ou bien alors le pire, c'est dans les colloques d'économistes, si vous n'êtes pas économiste, beaucoup font des complexes et commencent leur speech en disant « En tant que non-économiste, je vais vous dire ça ». Et c'est pas une catégorie non-économiste. Mais c'est terrible, ils ont réussi à foutre un tel complexe, les économistes, que tout le reste de la planète sont non-économistes. C'est quand même fou.
Mais si tu veux, alors, bon, en dehors, je dirais, d'une ouverture dans ce sens-là, bon, le truc, c'est que nous, on a un petit espoir du côté français, je sais pas combien de temps ça va durer, mais on nous laisse un petit espace pour commencer à faire en bas des petites choses minables. Et justement, la question, si on se posait la question, comment on pourrait remplacer le CERN, c'est qu'on a un petit espoir de commencer avec du travail associatif, à créer du petit travail où, même si les gens sont universitaires ou même s'ils sont manœuvres, on arrive à se mettre ensemble et puis à faire des choses comme ça. Alors on a un tout petit espace là, je ne sais pas combien de temps ça va durer, puis si on arrivera à en faire quelque chose. Donc on a une petite ouverture. Mais je ne sais pas combien de temps ça va durer, puis si on arrivera à en faire quelque chose, ce n'est pas forcément la bonne voie. La bonne voie pour changer, on ne la connaît pas. C'est ce qui est effrayant.
Oui, je voulais dire que les médias actuellement font tout leur possible pour donner le complexe de la compétence au bénéfice des physiciens, des économistes, des sociologues ou de je ne sais quoi, des médecins, enfin, bon, des savants. Or, il y a déjà 20 ans que Karl Jaspers avait écrit « La bombe atomique et l'avenir de l'homme », qui faisait une sorte de phénoménologie du processus scientifique, et il nous montrait qu'en matière de compétences, plus personne n'était compétent tout seul sans les autres. Et puis alors, ce n'est pas du tout pour, parce que je me trouve ici dans un groupe organisé par des ministres de recherche que je dis ça, mais parce que je me rappelle mes lectures. Il se trouve que parmi les gens compétents, aujourd'hui, sont à mettre en avant les mouvements féministes, si j'en crois Françoise Daubonne, qui a essayé de réconcilier l'écologie et le mouvement des femmes, ou plutôt de les concilier. C'est très inquiétant ce problème, ce complexe d'incompétence qu'on nous donne. Parce que quand il n'est pas le devenir de l'homme dans sa finalité, plus personne n'est compétent, les experts nous font chier, parce qu'ils sont experts en conformisme, ils ne sont pas experts en humanité. Et je pense que nous devons nous réapproprier, même si on n'est pas physicien, même si on n'est pas économiste, la compétence que les médias veulent nous voler. Nous sommes compétents.
Moi, je suis tout à fait hors d'accord avec vous. Disons, j'aimerais juste présenter une expérience qui m'a beaucoup influencé dans ce domaine. Dans les années 73-4, on s'est mis à s'intéresser aux biogaz. Ça nous a amené à avoir des contacts extrêmement suivis avec des paysans. Et puis, on a eu, par chance, ou comment c'était, disons, on n'a pas... Parce qu'il y a aussi un complexe de compétences. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup... nous, on a peut-être fait des grandes études, on est pour des diplômes et de machin, puis on se présente auprès des gens, souvent, en tout cas, peut-être qu'on l'a eu fait, avec des complexes de supériorité. Et puis, au bout d'un moment, il faut apprendre qu'on n'a aucune raison de les avoir. Et l'expérience avec les paysans, de ce côté-là, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, parce qu'on s'est aperçu, en tout cas, avec ceux qu'on a côtoyés là, on avait énormément à apprendre de ces gars-là. Il s'est établi des relations qui étaient des relations parfaites, parallélisme, avec aucune espèce de... Au début, on a été obligé de se donner un peu de temps parce que les paysans, ils avaient un peu leur vie, disons, monsieur l'ingénieur, monsieur le machin, un truc. Alors, c'était un peu gênant au départ, mais au bout d'un moment, c'est arrivé. Et ça nous a permis, bon, de faire du biogaz avec succès, bon, d'une part, mais surtout, de nous apercevoir qu'il y avait des tas de choses qui nous échappaient complètement. Et c'est là que, pour ça que je suis un sursaut quand Charles parlait qu'il fallait que tout le monde entre dans les bibliothèques et les universités. Il y a d'autres moyens de comprendre. Il y a d'autres moyens de percevoir. C'est ça que je me suis rendu compte avec ces gens-là. On se promène, on regarde, on voit, on sent, on respire, on a des impressions, on a des contacts avec eux. Puis il y a des choses qui rentrent. C'est pas des lectures. C'est pas des... C'est peut-être très féminin, ça. J'en sais rien, à la limite. Enfin, je peux pas vous répondre à cette question. Mais finalement, cette approche, dans l'expérience que j'ai eue alors aussi, c'est que quand j'explique ça ou quand j'essaie de faire comprendre ça, parce que c'est dur, on n'a pas les mots qu'il faut, on rencontre peut-être plus de compréhension auprès de femmes que d'hommes. Ça, c'est vrai.
Oui, moi c'est ça. Moi j'ai compris en vivant d'intervenir aussi là-dessus. Moi, je comprends votre position, j'ai de la peine à la suivre, mais pas tout à fait pour les mêmes raisons que Marie-Yvonne. Je suis d'accord, et je me réjouis de lire votre livre, entre autres pour la partie utopique de la fin. Je trouve que vous avez bien fait, et que sans utopie, on n'arrive à rien. Ce qui me gêne dans la façon dont vous dites les choses, et non pas tellement dans ce que vous dites, c'est que vous semblez, ce qui est, je crois pas le cas du livre, mais dans la façon dont vous dites les choses, faire abstraction des rapports de pouvoir. C'est-à-dire qu'avec le bon sens, on est perdant, on est, comme vous disiez tout à l'heure, berné. Et je crois qu'on ne peut pas nier qu'on se situe dans des rapports de pouvoir et qu'il faut se situer par rapport à ça. Le bon sens ne suffit pas. Il ne suffit pas. Et vous avez la position critique, vous parlez toujours d'avoir du bon sens, etc. Mais derrière ce bon sens, il y a une position critique d'une part, et il y a une capacité que vous avez qui est de transmettre ce que vous avez envie de dire et de faire et de communiquer aux autres. Ce qui n'est pas le cas d'habitude des gens qui ne se servent que du bon sens. Il faut une capacité, je suis d'accord pour l'opération bibliothèque, d'autant plus que ce n'est pas si facile que ça, il n'y a que la BTU qui est ouverte, les autres ont dit au nez.
Ah, mais moi j'ai fait quand même l'expérience de ta bibliothèque. En ce moment je suis dans la bibliothèque de géologie et minéralogie. Personne me connaît. On m'a pas demandé d'où je venais. Rien demandé. Parce que je portais des lunettes.
L'accès à l'information se fait. Mais je ne critique pas votre position, mais je dis, telle que vous l'exprimez, elle est dangereuse, à mon avis. Telle que vous l'exprimez, je ne pense pas que c'est ce que vous pensez, mais je trouve que vous faites trop abstraction des rapports de pouvoir, telle que vous l'exprimez.
J'ai envie de vous dire juste une remarque, c'est-à-dire, je me rends compte que je suis probablement un peu maladroit dans cette affaire, et surtout que je ne me sais pas du tout avec certitude où je vais. Premier point. Et deuxièmement, c'est qu'en fait, c'est peut-être à cause des rapports de pouvoir que j'en suis où je suis. C'est-à-dire que ce qui m'a le plus, disons, rendu la vie compliquée, si je peux dire comme ça, à tout le monde.